RMC, quand Brigitte Lahaye fait son show, c'est le Lahaye Night Show.
Alors, Bénédicte Martin, Ariane Limousin, vous êtes prête pour ce love test de ce soir?
Moi, je suis jamais prête.
Rien que la vérité, toujours la vérité. Et c'est bien sûr Michel Schumann qui a ses trois cartes en main et qui va commencer par Ariane. Allez.
Ariane, vous voulez une question à un point, une question à deux points?
À cinq points, je suis très gourmande.
Formidable. Alors, inventez une histoire pour vous excuser d'avoir envoyé un SMS bourré à votre ex avec ces trois mots, débardeur, stylo quatre couleurs, maracas.
Là. C'est une carte scénario. Là.
Pas de cadeau, là. Hein.
Et maracas, et en fait, je lui ai envoyé un message, j'étais un peu bourré et j'aurais pas dû lui envoyer ce message.
Bah, ça, c'est à vous de voir.
D'accord. Bon, d'habitude, je suis habituée à t'envoyer des sextos. Tu sais, tu aimes bien quand je mets mon petit débardeur, mais là, je le fais pas parce que pour pouvoir enlever les bretelles de mon débardeur, il me faut mon stylo, tu sais, mon stylo fétiche à quatre couleurs. Et comme je ne l'ai pas, eh ben, j'ai essayé d'utiliser des maracas pour le faire et donner un petit côté sexy, mais ça marche pas. Bref, excuse-moi, franchement, j'étais bourrée hier, j'aurais pas dû dire ça.
Bien,
c'est pas mal.
Oui.
Et les maracas, ça fait un peu de bruit, comme ça les voisins sont au courant.
C'est un exercice très dur à faire dans l'info, il faut au moins 5 minutes pour réfléchir.
Alors, Bénédicte Martin.
Alors, Bénédicte, de quand date votre dernière dispute avec votre partenaire? Quelles étaient les raisons?
Oh mon Dieu.
Ah non, il y est pour rien.
Lequel partenaire?
Bah, le dernier partenaire avec lequel vous êtes disputé.
Je ne dispute jamais, je suis une crème. De quand date? Je sais pas, je suis tout de même assez sanguine, hein, néanmoins. Une fille très de bonne humeur, mais assez sanguine. Et le propos, je sais pas. Franchement, je me dispute pas vraiment au niveau du sexe.
Mais même pour autre chose, hein.
Ah.
Pour autre chose, ça.
Éteindre un robinet d'eau en se brossant les dents.
Vous ne supportez pas que l'eau.
Ah non.
Que
non,
l'eau
non.
Coule quand il se brosse les dents.
Non.
Ah bah, je vous épouse pas non plus alors.
Pourquoi?
Moi qui pensais
vous,
être
pensez
bigame,
vous pensez qu'il y a trop d'eau qui coule, c'est ça? Vous êtes
sauvé
la planète?
Oui, voilà, c'est un truc d'éducation. On ferme le robinet quand on se brosse les dents. Et du coup, je lui dis une fois, deux fois, trois fois, il ne m'écoutait pas. Et hop, c'est parti.
Et la brosse à dents avec.
Les dents sont restées en place, ça va?
Oui.
Donc, ce n'était pas une grande dispute. Et la troisième question, c'est pour moi, bien sûr.
Ah oui. Quelle est la qualité principale que vous souhaitez chez un partenaire, Brigitte?
Là, c'est une qualité sexuelle que vous voulez particulièrement?
Ah, moi, je ne veux rien.
Non, vous voulez rien.
Comme ça, c'est génial. C'est à vous de déterminer le champ.
Bah, écoutez, la qualité essentielle.
Oui.
Propre. Oui, je crois que c'est quand même ça l'essentiel.
Bah, on est d'accord, pourquoi pas, oui.
Franchement, vu que c'est pas propre.
Oui, dans le sens inverse, j'aurais dit la même chose aussi.
On est d'accord. Hein, mais tout, hein, les oreilles, les dents, le pénis, tout. Hein.
Les oreilles, c'est comme le derrière, ça se lave.
Hein. Exactement. Et puis, c'est vrai que quand il écoute pas, ça veut dire qu'elles sont vraiment très sales, les oreilles. Hein. On est d'accord. Alors, ça, c'est pour vous, c'est une question. Michel Schumann.
Je sens la vacherie.
Non, pas du tout.
Ah, bon.
Est-ce qu'on a déjà fouillé dans votre portable ou est-ce que vous avez déjà fouillé dans le portable de quelqu'un?
Alors, je n'ai jamais fouillé dans le portable de qui que ce soit. C'est une chose que je m'interdirais formellement, de même couvrir une lettre qui n'est pas destinée. Et je ne crois pas qu'on ait fouillé dans mon portable et pourtant je n'ai pas de code. Je suis tellement dans une relation de confiance avec les gens que je n'ai pas de code sur mon portable.
Bah, moi non plus, oui. Je pense que c'est.
Je peux vous le passer, vous pouvez l'ouvrir et téléphoner, vous pouvez tout regarder.
Je voudrais pas que vous soyez le premier dans lequel je fouille. Ce serait.
Bon, si je vous y autorise.
Non, mais c'est vrai, hein, ça fait partie des choses essentielles et pourtant, qu'est-ce que les gens.
C'est toujours vraiment respecté.
Oui, je sais, ouais. Qu'est-ce que les gens aiment. C'est plus fort qu'eux. Hein.
C'est la boîte de Pandore en plus.
Oui, c'est courir au drame.
Hein, ouais. C'est que les gens s'ennuient. Enfin, je me dis, au bout d'un moment, pour aller chercher, traquer des informations dans le portable de l'autre, c'est qu'il faut vraiment s'inventer des histoires, qu'elles soient vraies ou pas, peu importe.
Puis même, je pense que ça dénote déjà une faiblesse de la part de la personne qui va regarder dans le portable. Et quoi qu'elle cherche, elle trouvera toujours quelque chose qui alimentera, en fait, une jalousie
oui, ou un fantasme,
ou un fantasme. Oui. Donc je pense que il y a rien de plus rédhibitoire et de plus déplorable. Voilà. Ouais.
Bon, bah là-dessus, on est tous d'accord.
On est toutes de bonnes maîtresses.
On n'aurait pas fait de bons espions.
Non. Oh non, pitié pas. Quel métier de.
Ah, quelle horreur.
Oh oui, franchement. Notre petite histoire drôle, Michel Schumann.
Ah, vous n'avez pas assez. Bon, bah, écoutez.
Mais non, parce que votre histoire de crevette, bon, c'était pas drôle.
Ça vous a pas plu, ça. Moi, je reconnais que c'est plutôt une histoire pour mecs, ça.
Mais enfin, bon. Ça, je vous confirme.
Mais il y a des mecs qui écoutent l'émission.
Ah, bah ça, c'est
bon,
sûr.
Bon, bah, ça fera rire la moitié du public. Je suis désolé. Ah, vous avez un couple qui fait l'amour sur une plage, parce qu'on disait c'est romantique, voilà, on jette la nappe et puis on fait l'amour sur la plage. Le monsieur dit j'y suis, elle lui dit non, t'es dans le sable. Et là j'y suis, non, t'es toujours dans le sable. Et là j'y suis, oui, là ça y est. Oh ben j'étais mieux dans le sable.
Quelle horreur.
C'est aussi une histoire pour mec.
Ça c'est pas possible.
Ça aurait été misogyne.
Le style misogyne, pourtant j'aime les femmes.
Bon ben il devait avoir un préservatif épais, hein, parce que pour être mieux dans le sable,
ouais, franchement... C'est un petit peu irritant.
Si on est aussi
déraillé
le lendemain matin,
oui, ils sont regardent méchamment toutes
là. Bon, et ben dans un instant, on va écouter le témoignage de Sophie sur le désir. Mais d'abord, c'est Nathalie que je vous propose d'écouter. Vous comprendrez pourquoi il vaut mieux parfois ne pas être trop curieux. Et oui, elle venait de découvrir les infidélités de son mari. Et nous étions avec Bruno Martin.
RMC, tout ce que les femmes se disent entre elles, c'est dans le Lie Night Show.
Oui, bonjour.
Vous avez 45 ans et votre mari donc a eu une relation extra-conjugale il y a 2 ans.
Oui, voilà. En fait, j'ai appris par des textos. Comme vous dites souvent dans les émissions, je n'aurais pas dû, mais j'ai fouillé dans ces textos et j'ai vu qu'il avait une relation extra-conjugale avec une dame. Apparemment, c'est quelqu'un qu'il a rencontré dans le milieu de son travail.
Vous aviez des doutes. Vous aviez des doutes, hein, j'imagine, pour aller chercher la preuve.
Des doutes, oui et non. Enfin, je me suis aperçue qu'il les rentrait pas très tôt le soir. Il prenait plus ses journées de congé, etc. Donc voilà, j'ai quand même 25 ans. Je vais avoir 25 ans de mariage. J'ai 3 enfants qui sont majeurs maintenant, tous les 3. Il a eu un accident vasculaire cérébral, il a été 1 an et demi à la maison, et puis suite à ça, en fait, c'est vrai qu'on s'est un peu perdu, j'étais plus son infirmière que son épouse.
Oui.
Donc voilà, donc à un moment, c'est un peu perdu, et suite à ça, quand il a repris le travail, j'ai bien senti on s'est un peu perdu, en fait, et quand il a repris le boulot, il s'est jeté un peu à fond dans son boulot, et c'est là où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui va pas. Et voilà, j'aurais pas dû, je l'ai fait, j'ai sent ses messages et je me suis aperçue qu'il avait une relation extra-conjugale depuis quelques mois. Il n'a jamais voulu me dire qui elle était, comment elle était, etc. Puisqu'il a voulu me protéger.
Mais il a eu raison.
Il a mis fin à cette relation extra-conjugale, donc il y a 2 ans. Et donc voilà, on a fait une thérapie de couple. On s'est redonné une chance, on s'est retrouvés, tout va bien. Il a mis du sien, j'y ai mis du mien, donc on prend du temps, une fois par semaine, on mange au restaurant tous les deux, on prend des week-ends, on part en vacances tous les deux régulièrement, puisque maintenant on a des enfants qui sont toujours à la maison, mais bon, qui partent en vacances de leur côté, et nous on peut se retrouver à deux. Et puis voilà, la semaine dernière, en fait, son ex-maîtresse est venue à l'assaut. Elle m'a envoyé des textos pour me raconter un peu les aventures de mon mari et les siennes, en fait, en me disant que il avait passé du bon temps, me donnant l'adresse des hôtels où ils allaient, etc.
D'accord.
Et puis là, je sais plus trop.
Oui. Bah écoutez, là vous avez affaire à une femme qui se venge parce que visiblement elle a perdu l'homme qu'elle voulait garder. Donc ce qu'il faut absolument arriver à faire, c'est à arrêter ce travail de sable qui vous fait terriblement souffrir et qui en plus peut nuire à votre relation. Bien sûr, on vous injecte du poison à petite dose, c'est dramatique.
Voilà, et vous pouvez déjà mettre son numéro comme éventuellement un désir désirable. Et puis, je crois que lui aussi a un rôle là-dedans, c'est-à-dire qu'il peut mettre carrément les pieds dans le plat, entre guillemets, auprès de cette dame, pour lui demander de définitivement stopper ce genre de sport.
Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est en fait, au mois de juillet, elle a essayé de rentrer en contact avec lui, et c'est ce qu'il m'a avoué. Il m'a avoué qu'au mois de juillet, elle est revenue à la charge, et en fait, les messages qu'elle m'a envoyés, c'est la suite, en fait, de ça, parce qu'elle a été sur ma prise de contact. Donc voilà en fait.
Oui, c'est elle a pas envie que quelqu'un vive le bonheur qu'elle aurait dû vivre. Voilà, c'est. Mmh. Mais votre mari, on sent bien qu'il était dans une période où il avait perdu complètement son rôle sentimentalisé et puis celui d'amant et puis qu'il a eu très très peur de mourir hein, visiblement et qu'il a un petit peu évalué la valeur de la vie et qu'il a voulu mettre certainement les bouchées doubles à ce moment-là. Mais au moins ça vous a permis de refaire une thérapie et puis de vous retrouver quelquefois.
Non mais là je crois qu'il faut faire enfin en plus votre mari il a été clair là dans l'histoire hein, c'est pas comme s'il avait s'il était ressorti avec etc. Il faut que vous fassiez front tous les deux contre elle et puis moi je pense que vous pourriez même si elle continue porter plainte pour harcèlement hein, et vous savez parfois la loi remet bien les choses en place. Oui, parce que ce qu'elle fait est totalement inacceptable et puis ça ne rime à rien en plus elle gagne rien donc il faut vous avez affaire à quelqu'un qui est un peu psychiquement un peu dérangé, on va dire. Hein.
Oui, oui. Mais c'est curieux cette propension à certains de faire des choses très peu aimables pour tenter d'être aimé. C'est le cas, là. Elle est en train de se discréditer complètement, même auprès de votre mari qui doit vivre ça tout à fait négativement. Parce que alors, les hommes n'aiment absolument pas qu'on vienne un petit peu picorer dans leur basse-cour, là. Et puis bon, on les empêcher
je
de
sais
vivre.
Même pas, je sais même pas si elle fait ça pour récupérer votre mari. Je pense qu'elle fait ça pour se venger de l'échec de l'échec hein mais bon de toute façon surtout faites front avec votre mari moi je pense que vous pourriez même changer de numéro si c'est pas trop compliqué pour vous et puis si pour une raison quelconque elle recommençait moi je vous inviterai franchement à porter plainte
c'est fait pour ça hein.
Et en fait moi ce que je voulais dire c'était auprès des gens qui comme moi ont vécu en fait une relation extra-conjugale un peu comme ça. Ça arrive à tout le monde, même les gens qui sentent un peu, qui se disent non, ça peut pas m'arriver parce que ben voilà, je suis heureuse, je vais très bien. Ça arrive à tout le monde, ça peut arriver même aux gens les plus heureux, les plus.
Mais bien sûr.
Voilà, ça arrive à tout le monde et on peut se remettre de tout ça parce que moi la première, voilà, j'ai eu beaucoup de mal au départ. Je suis d'origine portugaise et tout ça, c'est vrai que dans les mœurs c'est très difficile. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter tout ça. Je m'en suis remise. Et tout ça, à la limite, ça nous a... ça nous a redonné un peu un deuxième souffle. Voilà. Et puis, on s'est retrouvés tous les deux. On vit très, très bien tous les deux. Les enfants aussi, bon, ils sont plus grands. Mais voilà, ça nous a redonné confiance en nous. On s'est rapprochés. Et je veux dire que les gens qui vivent une relation comme ça, faut pas qu'ils baissent les bras parce que, ben, voilà... C'est un coup dans la vie, voilà, c'est un croche-pied, mais quelquefois on arrive très facilement à s'en remettre. Enfin, très facilement. Des fois c'est difficile, mais je veux dire, on s'en remet parce que, ben voilà, ça arrive, on se relève, et puis on va chercher de l'énergie, de la force qu'on ne croit pas capable, et puis voilà, quand on est capable de se relever d'une aventure comme ça.
En tout cas, votre témoignage, Nathalie, prouve que lorsqu'on arrive à pardonner, à refaire confiance, bon, en l'occurrence, vous avez aussi votre mari qui s'est bien comporté, hein, ensuite. Non seulement on aime mieux son partenaire, mais on s'aime mieux soi-même aussi parce qu'on est par rapport à l'estime de soi, ça donne une belle image. Et vous avez raison, Nathalie, vous avez fait un bon chemin.
On dit qu'on est. Moi, je me suis dit, je vais jamais y arriver parce que ben voilà, je méritais pas ce qui m'arrivait parce que je me suis dit, ben, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis pas une femme assez bien? J'avais pas du tout d'estime de moi-même et puis je me suis dit non, finalement, je mérite d'être heureuse avec mon mari. Je vais pas laisser tout ce que j'ai construit. J'ai mis 20 ans à construire tout ça et je vais certainement pas laisser quelqu'un me détruire et détruire ce qu'on a construit.
Vous aviez une meilleure estime de vous que vous ne pensiez. Parce qu'effectivement, oui, ce qui fait mal dans l'infidélité, c'est cette blessure dans l'estime de soi, hein, la plupart du temps. Hein. Et là, vous avez réussi à vous réinterroger sur vous-même et à vous dire non, je mérite ce mari. Et puis bon, visiblement, il vous avait pas non plus dévalorisé tant que ça, quoi.
Non. Je pense que l'engagement entre vous est fort et résiste à tout. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce témoignage. On continue avec Sophie. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
On va terminer dans le désir total avec vous, Sophie, il me semble. Hein. Les malheurs de Sophie, c'est les bonheurs de Sophie.
Écoutez, on va dire ça. Malgré que c'est toujours provisoire, c'est ça qui est dommage.
Oh, bah partez pas comme ça, Sophie.
Non, mais c'est vrai. C'est sincère, puisque... je disais en fait à votre collaboratrice que j'ai fait connaissance avec donc une personne, mais qui n'est pas complètement libre. Mm-hmm. Et effectivement, où ça se passe plutôt pas mal, mais j'allais dire que ça se passe toujours pas mal quand on n'est pas tout le temps ensemble. Et par rapport à mon vécu, je me dis. Parce que bon, je suis une maman aussi, et depuis que je suis séparée, je me dis bon, je vais peut-être finir toute seule. Bon, c'est pas, enfin, quand je dis toute seule, sans homme au quotidien dans ma vie, parce que peut-être que je ne suis pas faite pour être, je n'ai pas le caractère peut-être pour, ou plus le caractère, ou je l'ai peut-être jamais eu puisque j'ai été quand même séparée deux fois avec deux papas. Et mais bon, en même temps, j'étais très 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 jeune. Donc maintenant les choses ont changé, ont évolué, mais c'est vrai que j'aimerais bien partager, mais en même temps j'ai un peu de mal déjà.
Alors je vais vous faire un aveu, Sophie, la vie à deux a des avantages et des inconvénients. Voilà. Vous êtes d'accord?
Oui, absolument.
Elle
je
a
confirme.
Déjà beaucoup d'inconvénients avec moi-même, parce que j'ai du mal déjà à moi-même. Je laisse traîner pas mal mes choses et je me dis, mais comment tu pourrais vivre avec un homme? Alors, on se laisse trop.
Oh, les hommes s'en foutent un peu, hein, que les femmes soient un peu bordéliques. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas le défaut primaire.
Ouais, c'est pas le premier.
Vous êtes.
Oui.
Vous me rassurez, mais bon, en même temps, c'est parce que non, mais je pense que quand on est un peu trop livré à soi-même, on prend des mauvaises habitudes et ce n'est pas bien. Faut se dire.
Mais ça peut changer. Ça peut changer, voilà. Les habitudes,
oui.
Sophie. Vous allez voir, à tous vos arguments, on va en trouver un.
Hein. Ouais.
Ah bah écoutez, mais en tout cas, moi, je entre guillemets, je m'éclate beaucoup avec mon ami là.
Si vous vous éclatez beaucoup avec, on va l'appeler l'amant. Hein.
Voilà.
Pourquoi? Ça peut être la. Oui, enfin.
En principe, quand on jouit bien, ça s'appelle un amant, Sophie.
Oui.
Hein?
Ah bon?
Bah, oui.
Ah d'accord. Bah, écoutez, oui.
Il faut éviter, comme disait Claude Nougaro, le moment fatal où le vilain mari tue le prince charmant.
Ah oui, d'accord, voilà. Ok. Oula, ça commence à être gore l'histoire. Non, mais écoutez, non, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que moi et moi j'aime bien. Et visiblement, moi j'aime bien aussi, puisque hier il m'a demandé un petit peu si j'avais pas été prof de philo à une époque. Alors j'ai trouvé ça assez gratifiant parce qu'il aime bien mon côté un petit peu barré et un petit peu voilà excentrique et à la fois.
Bon, ils vont être contents, les profs de philo, s'ils nous écoutent.
Oui, enfin écoutez, en tout cas, je trouve ça très gratifiant, mais ça ne veut pas dire que les profs de philo sont barrés. Ils parlaient de moi. Parce que bon, en même temps, vous savez, on les touche plus ou moins. Hein. Après, ça dépend à quelle échelle. Et puis, il faut savoir un petit peu gérer. Mais en tout cas, avec lui, ça se passe très bien. Hein. Et ça se passe vraiment sexuellement très, 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 trop bien. Enfin, je ne vais pas dire trop bien, parce que c'est jamais
non,
assez
non.
Trop bien.
Bah, écoutez, profitez-en.
C'est un bon départ, déjà. Voilà. C'est
et
un
puis,
très, très bon départ.
Et puis vous verrez, ne philosophez pas, vivez ce que vous avez à vivre, et c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Oui. On se retrouve pour notre Love Conseil de ce soir dans un instant.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
Et pour ce Love Conseil ce soir, on va évoquer la sexualité durant les règles avec Ariane Limousin, Bénédicte Martin et Michel Schumann. Alors ça, c'est une grande question, faire l'amour lorsque la femme a ses règles. Alors il y a des couples qui décident de pratiquer l'abstinence pendant ce moment et je trouve que c'est pas mal finalement parce que c'est un bon moyen de faire renaître le désir. On fait une petite pause pendant quelques jours et puis on se retrouve après. Hein. Pourquoi pas, si évidemment il faut, c'est une chose à faire de commun accord des deux partenaires, mais ça peut, enfin, d'ailleurs dans certaines religions c'est ce qui est conseillé. Hein.
Mm-hmm. Oui, mais vous savez, c'est aussi parce que les religions sont assez répressives.
C'est pas faux. Hein,
donc c'est l'acte sexuel pour le plaisir seulement, c'était pas complètement autorisé. Il fallait le faire dans l'idée de se reproduire. Et donc on savait très bien, par expérience, ça c'était complètement empirique, que pendant les règles, ça marchait pas. Donc du coup, on avait dit, ne t'épuise pas pendant ce moment-là, fais-le à d'autres moments.
Oui, c'était donc...
C'était un peu ça au départ.
Alors, mais bon, après... en même temps... Pourquoi pas? Ça peut être une bonne manière.
Ça peut être une hygiène de vie.
Voilà. Alors sinon, on peut très bien en profiter pour faire l'amour justement sans pénétration. On peut faire énormément de caresses, de préliminaires, très poussées. Il suffit à ce moment-là que la femme garde un tampon périodique et ça ne gênera personne. À condition, là je le précise quand même, de l'enfoncer suffisamment dans le vagin et d'avoir mis un tampon tout à fait propre juste avant le rapport sexuel, hein, parce que rappelons-le, un rapport sexuel c'est pas forcément systématiquement avec pénétration, donc ça c'est aussi un bon moyen de pouvoir faire l'amour pendant les règles.
Mm-hmm. Oui.
Oui, non.
On
oui.
confirme tout ça.
Vous confirmez, très bien. Et puis, je crois qu'il faut aussi signaler qu'il y a une autre solution. Vous imaginez bien que les prostituées, les actrices de films pornographiques, elles vont pas pendant tous les mois, pendant 5 jours, être au chômage. Hein.
Il faut, oui. fallait bien trouver. Pas de période de carence.
Fallait bien trouver une solution. Et donc la solution, elle est finalement assez simple. Hein. Il suffit d'aller acheter une éponge végétale en pharmacie. Ensuite, suivant la quantité de sang, on met une éponge plus ou moins importante qu'on enfonce au fond du vagin. Et là, à ce moment-là, l'éponge va absorber les règles et on va pouvoir faire l'amour. L'homme, en règle générale, ne se rend compte de rien puisque l'éponge reste
souple.
Hein, voilà. Et puis après, on va retirer l'éponge. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut être capable de mettre ses doigts dans le vagin pour aller retirer l'éponge parce qu'en général, elle a été un petit peu enfoncée au niveau du col de l'utérus. Mais bon, c'est pas le vagin, il fait pas 40 cm de profondeur, hein, donc c'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, on peut même d'ailleurs ne rien dire à son partenaire, il se rendra compte de rien. Hein.
Oui, je confirme. Parce que mais c'est pas toujours facile à retirer. Pour avoir dû le faire pour certaines femmes qui avaient soit une compresse, soit quelque chose, elles voulaient faire une toilette profonde ou ne passaient peut-être pas forcément de l'éponge. Elles n'arrivaient pas toujours à ressortir la compresse. Ça m'est arrivé d'en retirer au fond avec une longue pince. Ah, écoutez, elles sont pas toujours souples.
En tout cas, l'éponge, il suffit d'en mettre un morceau suffisamment important quand même. Et on met pas un petit bout de coton.
Puis
attention, il faut pas mettre n'importe quoi. Hein. Je dis bien une éponge végétale. Hein. On met pas une éponge synthétique. Hein.
Vous êtes bien propre.
Ça brille.
Ça va rappeler votre histoire de sable. Là. Moi, je pense à autre chose. Simplement, quand on a ses règles, si ça gêne les deux partenaires, tout simplement, on peut peut-être faire l'amour sous la douche, sous l'eau. Tous les fluides s'évacuent en même temps.
Absolument.
Et donc, on prend plaisir sans avoir le moindre éventuel dégoût, si toutefois, si tant est que ça dégoûte.
C'est ça aussi que j'allais vous dire. Est-ce que les règles, c'est pas sale?
Il y a des hommes qui adorent d'ailleurs faire l'amour pendant les règles.
Il y en a que ça ne gêne pas, il y en a qui aiment, et puis les règles, c'est pas quelque chose de sale, c'est un liquide physiologique, c'est une sécrétion comme une autre.
Non, mais ça tâche, on est dans son lit, on n'a pas envie de l'avoir plein de sang, ou même en avoir partout sur soi. Enfin, on peut comprendre aussi que ça ne plaise pas à tout le monde, et en même temps, je trouve que ce qu'il faut faire peut-être, c'est regarder son partenaire. On le sent tout de suite, si ça le dégoûte ou pas, l'idée de faire l'amour alors que vous avez vos règles. Mais si vous sentez qu'il a très envie, et que vous aussi, excite, il y en a que ça excite. Oui, et ceux qui ne sont pas excités par ça, vous allez en voir.
Tant pis pour lui. D'autant qu'il y a des femmes qui aiment faire l'amour à ce moment de leur cycle, hein. Donc à chacun de trouver son.
Je pense que voilà, après, en protégeant les draps avec peut-être une serviette de couleur foncée.
C'est comme le vin rouge sur la moquette blanche.
Mais donc devant la cheminée, sur voilà, la carrelage. On a compris, Bénédicte. Et de préférence en buvant du vin rouge. Hein,
voilà.
C'est ça.
Voilà.
Bah, c'était, l'amour de braise.
C'était en tout cas le Love Conseil. Donc on voit bien que la sexualité durant les règles peut continuer. Il y a des tas de solutions. On vous les a données grâce à ce Love Conseil ce soir. Et puis on va écouter à présent le témoignage de Marc qui venait de finir sa relation qui était particulièrement fusionnelle.
RMC, tout ce que les femmes se disent entre elles, c'est dans le Lie Night Show.
Bonjour Brigitte, bonjour Franck.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous voulez revenir sur une relation qui a duré pourtant 4 ans.
Donc effectivement, j'ai une relation qui a duré 4 ans avec une personne. C'est une relation absolument extraordinaire, absolument fusionnelle, qui est aujourd'hui terminée. Et je suis plutôt en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé en fait. Donc la relation a duré donc 4 ans, a été totalement fusionnelle pendant 3 ans. C'était absolument fabuleux. C'était vraiment une relation totalement fusionnelle. Bon, on m'a toujours dit, des personnes qui ne connaissaient pas mon historique me disaient toujours que j'avais un comportement de jumeau dominant. Et c'est vrai que dans cette relation-là, j'avais totalement une relation pratiquement tellement fusionnelle qu'on aurait pu croire que c'était des jumeaux. Et ce qui était aussi assez marrant, c'est que normalement, je devais naître avec un jumeau. Puis le jour de l'accouchement, le deuxième n'est jamais arrivé puisqu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc c'est un petit peu historique. Donc voilà, il y avait donc cette période de 3 années qui était totalement fusionnelle. Après, on a eu une période de 8 mois où ça a été assez tendu, pour pas dire le bazar. Oui. J'ai eu durant cette période un risque de tromperie. Ma compagne de l'époque a fait une début de dépression, donc qui a été traitée. Après, c'est reparti, mais alors de manière extraordinaire durant 3 mois. On faisait même des projets de mariage, des projets de taxes, des projets éventuellement d'enfants sur du long terme, des projets de déménagement, des projets de couple, en fait. Et alors, ça durait à peu près 3 mois. Et puis alors après, au bout de 15 jours, en 15 jours, tout a volé en éclats. Mais vraiment volé en éclats, comme c'était pas possible d'imaginer. Depuis, les relations se sont totalement envenimées. Ma compagne a changé tout. Elle a changé totalement de comportement, de relation. Elle est passée totalement à autre chose dans son mode d'expression corporelle, dans sa façon de s'habiller, dans sa manière de s'exprimer. Juste après cette relation totalement fusionnelle, donc elle est devenue avec moi méchante. Elle m'a volé à plusieurs reprises. Il y a eu les poubelles de renversées dans ma maison, mes clés ont été conservées, j'arrivais pas à les récupérer, elles ont été volées. Et maintenant, elle en arrive même à revendiquer de profiter des gens. Elle l'assume, chose qui n'était pas du tout le cas avant. Et en fait, je ne reconnais plus du tout la personne avec laquelle j'ai vécu une relation fusionnelle pendant 3 ans.
Bah oui, parce que c'est plus la même, bien sûr.
Exactement, c'est plus la même, c'est exactement ça, mais plus la même. Et
Vous saviez pas que l'amour transforme les êtres, Marc?
Je vous remercie de me prêter cette faculté que je pourrais éventuellement avoir à transformer les êtres. J'aurais pas cette prétention-là, mais bon, c'est vraiment surprenant. Et en fait, j'ai repris l'historique un petit peu de cette fille, qui était absolument formidable, absolument charmante. Et en fait, en commençant à réfléchir, à analyser à froid, à brûle-pourpoint, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui étaient assez bizarres. Totalement avant de me connaître, elle avait eu 3 patrons différents. Les 3, ça s'est toujours terminé dans des relations très conflictuelles avec des vols. Elle a eu une amie, elle a toujours une amie, dont elle a toujours été très 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 jalouse, tant par sa beauté physique que par, on va dire, son niveau relationnel social, ses amis, les choses du style. Cette fille-là aussi, elle a réussi par la voler et en profiter. Moi, elle a terminé par me voler, parce qu'il n'y a pas de terme, elle m'a volé. Et en fait, ce qui se passe, et c'est un petit peu pour ça que je vous appelais, c'est je me demande s'il n'y a pas eu soit une erreur d'analyse sur la personne, soit si j'ai pas été totalement trompé. Et en fait, le but, c'est que le fait, c'est que maintenant, j'en arrive à me demander si je n'ai pas été en contact avec une personne qui était potentiellement pervers narcissique. J'ai fait quelques recherches sur Internet, notamment sur des sites spécialisés, sur des...
Alors, Marc, je vous arrête tout de suite. Si vous étiez avec une femme qui était pervers narcissique, vous seriez dans un pire état que ce que vous êtes actuellement.
Puis vous l'auriez vu bien avant 3 ans. Hein.
Oui. Auriez souffert bien avant. Non, je crois, Marc, dans cette histoire, il faut quand même que vous preniez votre part de responsabilité. Vous l'avez bien dit, d'ailleurs, vous avez perdu votre jumeau à la naissance. Et vous avez certainement, d'une manière tout à fait c'est chouette et après tout, faut rien regretter. Vous avez certainement idéalisé aussi cette femme pendant toute cette période de 2 ans qui a été très, très, très fusionnelle. Et à partir de ce moment-là, vous lui avez donné de la valeur. Et puis, malheureusement, c'est normal, ça, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un moment, cette fusion, cette passion amoureuse, elle s'émousse un peu. Et à partir de ce moment-là, vous l'avez regardée telle qu'elle est, avec peut-être moins d'étoiles dans les yeux. Et là, comme c'est une femme qui a des doutes sur sa propre valeur, elle s'est vengée en vous prenant des sous. Et on voit bien, encore une fois, comment l'argent est une sorte de manière de se racheter ou de se venger. Voilà, je simplifie un petit peu votre histoire, Marc. Mais c'est comme ça qu'il faut la comprendre. C'est pas une perverse narcissique, me semble-t-il, encore une fois, avec les éléments que vous nous avez donnés. Mais c'est une femme qui, en effet, a une vraie fragilité d'estime d'elle-même et elle a trouvé ce moyen-là de se racheter une image en prenant de l'argent de manière symbolique.
Et puis l'argent, c'est une référence de la valeur.
Tout à fait. Mais si vous voulez, le vol en lui-même ne m'a pas gêné tant que c'était du vol. Je me suis dit, bon, c'est du vol, c'est pas dramatique.
Ah, si, entre partenaires.
Voilà, tout à fait. C'est pas tout à fait intéressant. Mais par contre, je me suis permis donc quand j'ai recherché, que j'ai analysé, que j'ai cherché à réfléchir, j'ai trouvé tout un tas d'autres indices qui me faisaient penser que j'avais effectivement peut-être affaire à une personne, je dis, soit pervers narcissique, soit bipolaire. Dans le sens où, avant moi, elle n'avait jamais eu une relation stable de plus de 3 mois. Elle était totalement jalouse, elle était totalement égoïste, elle était totalement à but de sa personne. Elle me rabaissait sous forme d'humour, en me traitant de pauvre type. Au début c'était humoristique, et puis plus ça allait, plus c'était, j'allais dire, caustique. Elle disait toujours non. Toujours non, non, non. Et puis, de temps en temps, ah bah oui, quand même, je vais faire un effort.
Marc, vous avez quand même vécu 2 ans, me semble-t-il, dans ce que vous nous avez dit de totale fusion, d'amour parfait, etc.
Ah, même plus. Oui, tout à fait.
Et voilà, et elle est quand même aussi tombée en dépression. Hein. C'est ce qui me permet aussi de dire que c'est pas une perverse narcissique. Vous verrez pas des pervers narcissiques tomber en dépression. Ça n'existe pas.
Ils ont trop de système de défense.
Ça n'existe pas, ouais. Ça. Hein. Donc, voyez, il y a.
Tout à fait. Mais c'est pour ça que derrière, ça m'a permis de m'orienter et de réfléchir et de dire qu'elle était éventuellement bipolaire, puisque je sais que sa grand-mère était bipolaire, a fini pendu. Que son père a quelques problèmes aussi, et je me suis donc renseigné sur le côté bipolaire de la personne. Le fait que, pendant que nous étions ensemble, elle était totalement... Alors, je suis pas du tout fermé au fait que j'ai totalement tort dans mon analyse, hein, c'est absolument pas la question. C'est simplement que je souhaiterais avoir un avis extérieur. Le fait qu'elle change totalement de comportement calvant, elle était totalement isolée socialement. Pendant 4 ans, elle était totalement isolée socialement. D'un seul coup, d'un seul, elle se retrouve 500, 600 amis bientôt. C'est un truc... absolument phénoménal.
Bon, moi, excusez-moi Marc, mais j'aime pas mettre des étiquettes. Et c'est vrai que l'étiquette bipolaire, on la met un petit peu trop facilement. J'ai pas suffisamment d'éléments. Et puis de toute façon, moi, je suis pas psychiatre, je sais pas mettre des étiquettes. Qu'elle soit fragile, c'est évident. Qu'elle ait un problème d'estime d'elle-même, c'est évident. Bon, après, visiblement, Marc, vous avez besoin de comprendre votre histoire. Donc, continuez mais éventuellement, aller parler plutôt à quelqu'un de compétent que de regarder sur Internet, parce que moi, encore une fois, je suis une fan d'Internet, hein, je suis pas du tout contre Internet, mais
mais quand on a une maladie, il faut jamais aller regarder sur Internet, parce qu'on les a toutes, hein.
voilà, je pense que le problème d'Internet, c'est qu'on va lire à la fois des spécialistes qui vont dire des choses tout à fait sensées, intelligentes, et puis on va aussi lire des abrutis qui mettent n'importe quoi, et donc c'est pas là où on aura forcément la bonne réponse à nos questions. Vous êtes d'accord?
Oui, complètement.
Voilà.
Sur la sexualité notamment.
Et sur la psychologie, c'est pareil.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âneries qui circulent sur Internet.
Oui, oui. C'est normal. Hein. c'est quand même un dossier particulièrement compliqué, la sexualité. Ouais. Vous êtes d'accord?
Ah, complètement.
Même si vous,
non,
vous
mais
avez...
Non, mais il y a des gens qui disent des choses très, très, très intelligentes hein, sur Internet. Mais alors,
mais regardez, si on va sur Internet, on va découvrir qu'il y a une femme qui peut avoir un clitoris de 30 cm. Vous imaginez ça? Alors après, le mec, il rencontre sa première femme, là, il cherche le clitoris, il dit, elle en a pas.
Il est où?
Donc méfions-nous quand même d'Internet, on est bien d'accord. Allez, merci Marc. Et dans un instant, on va se quitter avec un poème érotique de Pierre Delanoë.
RMC, c'est le Late Night Show.
RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lahaie Night Show.
Et avant de se quitter, je voulais vous rappeler également que vous pouvez découvrir notre Wikisex. C'est un rendez-vous sur rmc.fr. Et dans le Wikisex, vous trouvez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur vos problèmes de couple, vos amours, votre sexualité. Pour l'instant, on va faire un petit tour du monde libertin avec le spécialiste de la question, Didier Mendouni.
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Lahaie Night Show.
Bonjour Brigitte.
Alors, aujourd'hui, notre duo dos à dos se porte sur le libertinage. On a essayé de trouver quelqu'un qui était contre le libertinage, mais finalement, ça a été très compliqué. Les gens n'osent pas montrer qu'ils sont contre le libertinage, parce que ça fait pas tendance, hein. Ça doit être ça.
Ni pour, ni contre, bien au contraire.
Bon, alors, vous, évidemment, vous êtes tout contre, hein, puisque vous êtes l'auteur de ce guide de la France coquine 2014-2015, qui est tout chevaux, qui vient de sortir aux éditions Petit Futé. Un guide, je le répète, hein, chaque année, qui est tout à fait sérieux. Vous passez en revue tous les clubs qui existent en France et en Belgique aussi, je crois. Hein.
Oui, enfin, on fait une sélection de certains clubs en Belgique, mais et la France, effectivement, tous les clubs sont réenquêtés tous les ans, avec des critiques, bonnes ou mauvaises, selon les mérites de chacun.
Voilà, donc c'est vraiment un guide sérieux, je le précise, hein, pour ceux qui, parfois, ne savent pas très bien où aller, si, quelle que soit votre région. C'est donc aux éditions Petit Futé. Alors vous, évidemment, vous êtes plutôt, vous êtes un défenseur, hein, du libertinage, même si vous avez aussi...
Avant tout, je suis plutôt un libertaire, ce qui veut dire que chacun fait ce qu'il entend, ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, à condition, bien évidemment, de déranger personne. Voilà. Donc, et là où je suis je dirais, un farouche partisan, c'est dans surtout l'envie de dire aux gens, exprimez votre sexualité et vivez-la. Peu importe les clichés, peu importe ce que vous êtes, vivez votre sexualité, vous serez bien plus heureux. Une sexualité frustrée rend les gens généralement assez mal dans leur peau et parfois même agressifs.
Je suis assez d'accord avec vous. En général, les échangistes, les libertins sont plutôt des gens tolérants et qui laissent les autres vivre ce qu'ils veulent et qui ne se mêlent pas de ce que fait le voisin. Mais en même temps, je suis un peu obligée d'être le procureur, hein, puisque vous êtes, vous, l'avocat du libertinage. Je trouve que les médias en ont beaucoup parlé à un certain moment, notamment dans les années 90, et que quelque part, ça a entraîné des couples qui étaient absolument pas prêts et qui se sont un peu ramassés.
Ah, tout à fait, oui, le libertinage, on se réveille pas le matin en se disant, ça y est, on va être libertin, on va être échangiste, on va être côte-à-côtiste, mélangiste ou autre. Non, c'est on l'a en soi ou on ne l'a pas. Alors j'aurais tendance à dire qu'on l'a tous, mais après, selon le poids de l'éducation qu'on a reçue, qu'elle soit judéo-chrétienne ou autre, on a ce sentiment de culpabilité quand on vit une sexualité un petit peu, je dirais, hors norme de la position du missionnaire ou autre. Donc, à partir de ce moment-là, dès l'instant que les médias en ont parlé, ça a permis à certaines personnes de laisser libre cours à leurs envies, mais qui ne l'ont pas vécu d'une manière totalement débridée, surtout par rapport à l'autre. C'est-à-dire que généralement, dans un couple qui a décidé d'aller dans les clubs libertins, c'est en général, c'est le monsieur qui décide et c'est la dame qui suit. Si c'est pas bien discuté auparavant, si c'est pas bien échangé au niveau des désirs et des barrières qu'on peut se mettre aussi, il faut se donner des limites. On va généralement droit dans le mur, on va à l'échec, c'est évident. Après, il y a aussi un autre aspect, c'est que il faut être terriblement amoureux l'un de l'autre. Parce qu'il est hors de question
Pas du tout d'ailleurs, si on n'est pas du tout amoureux et qu'on y va comme ça entre bons copains pour passer une bonne soirée, ça marche aussi.
Alors on aura peut-être la jouissance physique, mais alors en ce qui concerne l'orgasme cérébral, il sera inexistant et c'est celui qui est c'est franchement le meilleur orgasme.
D'accord, c'est votre point de vue. Moi, ce que je crois quand même, pour l'avoir, pour entendre souvent des auditeurs qui témoignent, qu'ils soient libertins ou qu'ils aient envie de éventuellement tenter le libertinage, c'est que c'est souvent assez complexe dans leur tête. C'est pas clair. C'est-à-dire qu'ils ont, des fantasmes, mais ils savent pas très bien ce qu'ils ont envie, ils savent pas très bien pourquoi ils y vont, et c'est là où en effet les problèmes peuvent arriver.
Oui, parce que c'est le phénomène de mode, phénomène de masse. On on apprend que des amis vont, donc on a envie de faire le même chemin. On apprend, vous savez, c'est aussi bête que par exemple quand Yannick Noah avait gagné Roland Garros, dans les semaines qu'on suivit, plein de gens se sont inscrits au tennis. Mmh. Au bout de 3-4 mois, plus personne n'y allait, mais tout le monde l'a fait. Enfin, beaucoup de gens l'ont fait. Et pour le l'impact médiatique qu'il y a eu à la fin des années 90, début des années 2000, c'est à peu près ce qui s'est passé.
D'accord. Et alors, autre chose aussi, moi j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui pratiquent le libertinage sont finalement très possessifs, et moi ça m'a toujours surprise. Vous parliez tout à l'heure que vous étiez libertaire, ça je l'entends bien, et je sais pas, quand on est libertaire, on peut pas imaginer qu'on possède le corps de l'autre, non ?
Ah, tout à fait. Si on parle.
Vous êtes d'accord qu'ils sont quand même assez possessifs dans l'ensemble, les libertins ? J'ai dit que je me faisais un peu le procureur, hein, aujourd'hui.
Possessifs, oui et non. C'est-à-dire qu'ils sont possessifs dans leur. Ils sont possessifs en commun.
D'accord, mais enfin, c'est-à-dire qu'ils acceptent très bien que leur femme ou que leur mari fasse l'amour avec quelqu'un d'autre en leur présence, mais si jamais ça va plus loin que ce qu'ils avaient décidé, ils ont plus le contrôle, et là ça passe pas toujours très bien.
Oui, là c'est parce qu'ils ont mal préparé leur sortie, à mon avis, parce que un petit peu comme dans les relations SM où il y a le mot clé qui déclenche la fin du jeu, je pense que le couple, avant d'aller dans un club, devrait avoir son petit mot secret,
le joker,
voilà, et puis au moment où ça transgresse un petit peu les limites qu'on s'était fixées, l'un des deux prononce le mot, et puis ça y est, on arrête les jeux. Maintenant, après, ce qu'il faut surtout voir, c'est comment, je reviens à ce que je disais, comment est-ce qu'on prépare sa sortie, première
mais
sortie.
Mais voyez, vous êtes là en train de dire, il suffit de dire le petit mot, machin, etc. Ce que vous oubliez, c'est que dans la sexualité, il y a en effet le moi, ce qu'on imagine, ce qu'on croit savoir de sa propre sexualité. Et puis il y a tout ce qui est pulsionnel et qui parfois est tellement fort, arrive comme un boomerang et submerge, si je puis dire, les bonnes dispositions qu'on avait prise.
C'est vrai, mais à partir du moment où le couple, les deux sont tout à fait d'accord pour y aller, je dis bien, les deux sont d'accord pour y aller. Si dans le feu de l'action, on va plus loin que ce qu'on avait imaginé, puisqu'on ne sait pas avant de découvrir, si on va plus loin, s'il y a réellement de l'amour, on ne peut pas en vouloir à l'autre de transgresser, parce que on sait que la personne se laisse complètement aller.
Vous êtes un peu dans les pays des bisounours là, hein, Didier.
Pas du tout, pas du tout. Je vous assure, oui, Brigitte, oui. C'est comme ça que. C'est comme ça que ça se vit chez les vrais échangistes, ouais, chez les vrais libertins. D'accord. Mais oui, mais il est là le problème, c'est que le problème, ce qui n'est pas un problème, si ça peut être dangereux pour la survie d'un couple, c'est que des couples vont se brûler les ailes dans des endroits qui ne sont pas faits ni pour eux, ni pour leur fantasme, et ni même pour leur sexualité.
Bon, s'ils se brûlent que les ailes, encore ça va.
Oui.
Fabien est avec nous, il a 40 ans, et justement, vous êtes libertin. Bonjour Fabien.
Bonjour Brigitte, bonjour Didier.
Bonjour.
Mais je suis un peu d'accord avec Didier. Hein, parce que
ça ne m'étonne pas. J'avais dit que je faisais un peu l'avocat du diable. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ose dire des choses pas positives pour le libertinage. On m'accusera pas d'être trop coincé. Je pense que je ne prends pas trop de risques.
C'est clair. Non, il faut savoir que, bon, personnellement, après, chacun voit midi à sa porte. J'y vais pour le plaisir, j'adore voir les femmes prendre du plaisir, et à leur en donner, c'est le but. Ma partenaire, je l'ai rencontrée dans le milieu il y a plus de 2 ans, on vit en couple maintenant. Voilà, elle était célibataire et moi aussi, j'étais en soirée libertine chez des amis, elle était une tierce et je suis arrivé là, un homme supplémentaire. Et puis,
c'est intéressant, excusez-moi, voilà. Je vous coupe une seconde, mais Didier Mandouni, c'est fréquent des célibataires qui se rencontrent en club libertin ?
Oui, ça arrive de plus en plus, pour la simple et bonne raison, c'est que de plus en plus de femmes y vont seules.
D'accord, ou entre copines, oui.
Seules,
ou carrément seules.
Oui.
Oui, c'est nouveau ça.
Non, mais bon, disons que c'est les soirées privées, quoi. Une petite soirée privée entre amis, puis il y avait une tierce, et elle a voulu un homme supplémentaire pour rentrer dans le jeu, parce qu'elle découvrait le milieu, et elle est en continuité maintenant dans le milieu, puisque... elle est avec un libertin, et puis je pense être un vrai, puisque justement, je la vois prendre des plaisirs, elle ne savait pas qu'elle avait un côté bisexuel, qu'elle a découvert, pourtant sans défendre au début, elle a découvert il y a très peu de temps, il y a 6 mois, non. Et elle n'y croit pas encore, même, des fois elle n'admet pas encore, bien que ça... elle se pose des questions, elle se demande, parce que bon, elle a quand même 50 ans, j'en ai 40, elle a 50 ans, et elle découvre tout ce milieu-là, elle a connu 15 ans de mariage, de rapport standard, quoi. Hein.
J'aime bien l'expression rapport standard, je la connaissais pas, je vais la garder. C'est bien un mot de libertin, ça.
Voilà. Un petit peu comme on appelle aussi maintenant les moldus aussi, mais bon.
Les quoi ?
C'est pour, hein. Il y a les verticaux et les horizontaux, il y a les moldus aussi quand on parle des non-initiés.
Voilà. Les moldus, ça veut dire qu'ils sont mous de...
C'est tiré d'Harry Potter au départ, c'est les non-initiés quoi, c'est
d'accord.
Comme les magiciens les non-initiés.
Ouais, ouais, ok, d'accord. Voilà. Excusez-moi, je connais pas trop tous mes classiques.
Voilà. Non, mais bon, c'est un milieu qui est, pour moi personnellement, très épanouissant. Et pour moi et pour ma partenaire aussi. Et s'il s'avère qu'elle aille plus loin, parce qu'il y a pas, on a des limites sans en avoir, c'est-à-dire que tant qu'elle je vois qu'elle prend du plaisir et qu'il y a le respect de chacun, elle va où elle veut, quoi. Voilà, elle peut aller là où l'amène son désir.
Mais je vous écoute, Fabien, mais j'entends que c'est elle qui va où elle veut, mais vous allez où?
Ah ben moi je vais où je veux aussi, là il n'y a pas de problème,
d'accord.
Elle me laisse faire parce que bon justement je suis assez réputé de ce côté-là par rapport aux femmes fontaines.
Vous êtes un sourcier.
Voilà. Voilà. Et voilà, bon mais ça aussi c'est un sujet qui est très intéressant et que j'affectionne particulièrement à révéler les femmes qui ne le sont pas encore. Et pour moi personnellement elles le sont toutes. Enfin bon ça c'est un autre sujet.
Toutes, pas forcément, mais enfin bon, beaucoup plus,
majorité,
beaucoup plus qu'on ne l'imagine, à condition évidemment qu'elles aient envie de se laisser aller et qu'elles trouvent en effet le bon sourcier. D'accord.
Voilà,
une femme en condition dans un environnement qui lui permet de se lâcher totalement, effectivement, pourra se révéler femme fontaine, ça c'est évident.
C'est clair.
Oui, mais faut-il encore qu'elle ait envie de se lâcher? C'est en ça que je mettais la réserve.
La mettre à l'aise, justement, dans le contexte qui convient.
Mais c'est sûr que les femmes qui vont en club libertin sont a priori plus libérées et plus prêtes à se laisser aller que les femmes en règle générale.
Voilà, alors ça, c'est assez rigolo, parce que tous les couples que j'ai interviewés en club, à chaque fois, on me dit à peu près le même scénario. C'est monsieur qui a décidé. Alors la dame me dit, oui, c'est mon mari qui m'a traîné là. Et puis le mari me dit, oui, mais maintenant, tous les samedis, c'est elle. Et à peine il a fini la phrase qu'on part quelque part pour la rechercher parce qu'elle est déjà partie s'amuser.
Eh oui. Mais bon, c'est juste pour lui faire plaisir à lui qu'elle fait ça. Bien sûr. Ce qu'on entend aussi souvent, et qui, à mon avis, est une grave erreur, c'est de penser que le libertinage est un remède contre l'infidélité.
Ah, surtout pas. Enfin, oui et non. On va dire que si, encore une fois, le libertinage est bien vécu dans le couple, sincèrement, on réduit considérablement les possibilités d'aller voir ailleurs en cachette. Qu'est-ce qui est terrible dans le couple? C'est pas de tromper charnellement. Ce qui est terrible, c'est de tromper moralement, c'est de mentir. C'est là où on fait rentrer le poison dans le couple. Mais à partir du moment où le couple vit librement son libertinage ensemble, en club ou en soirée privée, après, on n'a pas vraiment de raison d'aller voir ailleurs tout seul de son côté. Enfin, je pense pas.
Alors j'ai un chiffre, 7% des Français à peu près auraient pratiqué au moins une fois l'échangisme selon un sondage IFOP. Vous êtes d'accord avec ça vous paraît cohérent? Ça me paraît peu, 7%.
Oui, ça me paraît peu et j'aimerais connaître la proportion homme-femme dans ce résultat.
J'ai pas plus de détails sur ce
exemple,
pourcentage.
Cet après-midi, vous prenez tous les clubs libertins ouverts l'après-midi, club ou sauna, 80% de la clientèle, c'est des hommes mariés. Seul vraisemblablement et
les coquins
et les quelques dames qui vont s'y rendre cet après-midi, parmi elles il y a des célibataires, des vrais, mais il y a aussi des femmes mariées.
D'accord. Donc c'est une manière finalement d'être infidèle sans trop avoir à chercher l'amant ou la maîtresse.
Oui, et en même temps, ça permet peut-être en sortant de beaucoup moins culpabiliser, parce que ça a été une consommation, c'est gênant ce que je veux dire, mais ça a été une consommation fast-food un petit peu quelque part.
Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de sentiment, quoi.
Voilà, c'est ça. On a pris, on a rejeté tout de suite derrière, donc il n'y a plus, il n'y a pas ce même sentiment que de revoir la personne.
C'est ça.
Même.
On rentre dans un club libertin pour consommer une relation extra-conjugale, et puis voilà, on y vient incognito, on ressort, on n'échange pas de téléphone, rien.
Exactement.
Mais on prend peut-être quand même un risque à un moment de tomber sur quelqu'un avec qui on a vraiment un flash.
Ça peut se faire, mais là, faut pas confondre le flash par rapport à des instants de plaisir et le flash sentimental. C'est, enfin, il y a quand même une différence importante. On peut être amoureux de quelqu'un, pas jouer avec, et on peut jouer avec quelqu'un sans en être amoureux.
Alors, Marina témoigne, tiens, justement, c'est intéressant ce que vous disiez, mais, Didier Mendouni. Marina, vous avez 32 ans et oui. vous avez été donc toute seule en club libertin.
C'est ça, bonjour. Oui. Donc, je me présente, bonjour. Je suis Marina. Donc, effectivement, je suis allée, ça a commencé il y a à peu près 6 à 8 mois toute seule pour découvrir. Je venais de divorcer de mon ex-mari avec qui je suis restée quand même 17 ans. Ou dans lequel on n'avait vraiment que des rapports entre guillemets normaux, donc
pour standard, moi, standard.
Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, il était vraiment inconcevable de partager un homme, oui. Et de partager même mon mari. J'avais jamais trompé, il m'avait jamais trompé. Plus d'amour, donc on se sépare. Et en fait, je rencontre quelqu'un qui est libertin et qui me parle de ça. Bon, je dis ok, et j'ai décidé d'aller voir par moi-même ce que ça donnait. Et finalement, je me suis rendu compte que je m'y épanouissais énormément et que j'étais bien en étant seule là-bas et pas forcément accompagnée. Et finalement, on y trouve beaucoup de plaisir, c'est tout dans le respect.
Et avant notre lecture, Coquine, il me reste à remercier nos invités. Ariane, merci beaucoup. Et puis, on se retrouvera bientôt avec votre fil d'Ariane, bien sûr, dans l'émission. Bénédicte Martin, merci beaucoup.
Bah, merci également.
Et ce livre, si vous voulez vous aussi apprendre à être une femme plus libérée, plus féministe et plus épanouie, ça s'appelle La Femme et c'est aux éditions des Équateurs. Ou alors, vous avez le livre de Michel Schumann, Mieux faire l'amour. J'aime bien le mieux faire l'amour à un homme aux éditions. Presse du Châtelet, Michel Schumann. Hein,
c'est, oui, Brigitte.
C'est bien mieux faire l'amour.
Bien mieux faire l'amour, de mieux en mieux faire l'amour.
De mieux en mieux. Mais c'est toujours de mieux en mieux que je vous reçois avec plaisir, Michel
Schumann. Merci, Brigitte.
Alors, on va conclure avec ce poème de Pierre Delanoë. Pierre Delanoë, je l'avais rencontré, il m'avait écrit de nombreux poèmes. C'était d'ailleurs sorti dans un livre qui s'appelle La poésie dans le boudoir, avec le CD sorti, mais je crois que c'est complètement épuisé, qu'on ne le trouve plus. Raison de plus pour vous en donner un petit extrait. Ce poème s'appelle « Premier rendez-vous ». C'est au bureau ou dans un bar, dans le métro, dans une gare ou dans la rue, ou n'importe où, que s'est conclu le rendez-vous. Le jour de gloire est arrivé, il va falloir le mériter. Des propos anodins sur la pluie du matin, compliments conformistes et le trac des artistes. Mais lui, c'est un esthète, il prend sa cigarette, s'allonge sur le lit. Il se tait et sourit. Elle bouge avec grâce, passe devant la glace, arrange ses cheveux à petits coups nerveux. Les acteurs sont placés. Ok, on peut lever. Elle dégrafe lentement un bout de tissu élégant en guise de premier tableau après ce lever de rideau. L'homme découvre avec délice le noir fuselage des cuisses qu'un joli porte-jartelle va souligner de sa dentelle. Voici le centre du théâtre. La star, la vedette, la chatte. Et puis le tour des seconds rôles. Les hanches, les seins, les épaules. Pendant ce temps, le spectateur s'est déshabillé sans pudeur. La belle, heureuse de l'effet que sa nudité lui a fait, admire, et c'est bien légitime, la virilité qui s'anime. Auprès de ce membre dressé, Priape eût été se cacher. Elle met en bouche l'emblème, le libère au moment suprême. Où deux corps affamés s'affrontent, se heurtent, s'étreignent, se domptent, cherchant une estocade ultime. Lèvres, doigts, langues se combinent sur les points forts des seins, des sexes. Enfin, c'est le fameux réflexe, un paroxysme d'hystérie, fauve soudée dans la folie. Amants confondus dans l'extase, quand les cris se mêlent aux phrases pour exulter de vérité, de liberté, de volupté. De la découverte essentielle, un nouveau petit coin de ciel. Et on se retrouve demain, nous serons avec Florence Escaravage, Julia Palombe et Bruno Martin. Et comment relancer le désir, ce sera notre sujet demain. Il y a à dire.
RMC, et dire que vous pensiez tout savoir sur les femmes.